voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
L'avantage des thérapies alternatives est d'accompagner des personnes dans leur globalité. Ces thérapies prennent en considération les individus de façon holistique. Elles s'adressent tant au corps qu'à l'esprit. Tous les aspects des troubles, qu'ils soient d'ordre psychologique, physiologique, psychosomatique ou environnemental, sont pris en considération par ces médecines intemporelles. Les thérapies alternatives sont naturelles. Elles permettent de diminuer la consommation de médicaments et de réduire les effets secondaires liés au traitement allopathique. Souvent, elles accompagnent le corps et l'esprit vers l'auto-guérison. La voix du Kaizen donne la parole à ces thérapeutes alternatifs qui complètent la médecine allopathique en nous permettant de soigner notre corps et parfois notre esprit. Docteur Bérangère Arnal est une gynécologue obstétricienne spécialisée en phytothérapie. Dans cette émission Kaizen, elle nous expose les différents traitements naturels tels la phytothérapie, l'aromathérapie ou encore l'homéopathie au service de ses patientes. L'émission radio s'appelle La Voix du Kaizen. L'idée, c'est de donner un peu la parole à différents thérapeutes dans l'alternative. J'ai pu rencontrer des naturopathes, rencontrer des médecines chinoises. On a fait des émissions sur l'Ayurveda. Avec vous, Bérangère Arnal, je vais vous demander dans un premier temps de vous présenter. Qui êtes-vous ?
Je suis une femme qui s'occupe des femmes. Je suis médecin gynécologue obstétricien et je suis installée depuis l'âge de 30 ans et j'ai un peu plus que 60 ans.
Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui, assise à ce bureau ?
Pour un engagement que j'ai pris vis-à-vis des femmes, sûrement parce que l'histoire des femmes de ma famille est très douloureuse et tourne autour de la maternité, la féminité, le cancer du sein. Et quand je suis arrivée au monde, j'étais déjà, je portais déjà tout ce fardeau de transgénérationnel.
Le combat pour les femmes, l'engagement pour les femmes. Qu'est-ce que vous entendez par l'engagement pour les femmes ?
Mon engagement, c'est de les informer sur les bienfaits de la médecine moderne, allopathique, mais pas simplement... Je vais recommencer ma phrase. Mon engagement, c'est de protéger les femmes, de les informer, de les alerter. Et dans le cadre de la spécialité que j'avais choisie, eh bien, c'est parler des hormones de synthèse, parler de la pilule, parler des traitements hormonaux de la ménopause et du fait qu'il y a d'autres solutions possibles avant de prendre de la chimie depuis l'âge de 14 ans jusqu'à 65-70 ans. On peut tout à fait, avec des traitements hormonaux, des pilules et autres traitements de ménopause, mais aussi des traitements avant la ménopause, être sous hormones de synthèse pendant 50 ans. Je pense que ce n'est pas sans danger pour la vie des femmes. Ça, c'était le premier engagement. Le deuxième engagement, c'était de me dire que j'allais écouter les femmes d'une autre façon. C'est-à-dire que je n'allais pas toute ma vie faire comme... C'est ce dont j'ai pris conscience à l'âge de 30 ans en m'installant. Je n'allais pas toute ma vie faire comme les autres gynécos, c'est-à-dire prescrire les mêmes pilules, les mêmes antibiotiques, et puis c'est tout. De l'âge de 15 ans à l'âge de 80 ans, avoir toujours la même façon de travailler, alors que j'ai réfléchi à une prise en charge plus globale, comme beaucoup de mes confrères qui sont généralement pas des spécialistes, qui sont des médecins généralistes, homéopathes, acupuncteurs. Et petit à petit, j'ai rencontré plein de gens sur mon chemin, puisque je me suis occupée d'un diplôme universitaire de phytothérapie à la faculté de médecine Paris 13 pendant 15 ans. Donc là, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de monde et j'ai développé la possibilité d'informer à travers des articles, des bouquins, des conférences et lors de mes consultations, d'informer sur le fait qu'on peut soigner les femmes, en tout cas dans un premier temps, d'une autre façon qu'avec la médecine allopathique, à laquelle je fais référence, quand même, et que j'utilise quand il le faut, et je la garde pour quand on en a vraiment besoin.
Qu'est-ce qui fait que vous soyez intéressée à autre chose que l'allopathique ?
Avant ma naissance, puisque ma grand-mère paternelle est morte d'un cancer du sein un an avant ma naissance, et elle se soignait en homéopathie. Alors l'homéopathe l'aurait prolongé, l'aurait prolongé de quelques mois, quelques années, disait mon père. Mais bon, elle est morte dans des circonstances qui sont, vous imaginez bien, lourdes et difficiles. Et donc il y avait déjà l'homéopathie avec un grand homéopathe qui s'appelait le docteur Degnaud à Paris et qui parlait déjà d'alimentation, de pratique du sport, de respiration, de faire du yoga, de pratiquer le zen, voilà. Et donc, mon père se soignait comme ça, ma mère aussi. Elle allait dans les boutiques de régime. Maintenant, on va dans les supermarchés bio, mais à l'époque, c'était toujours étonnant de voir des gens aller dans les boutiques de régime chercher du sucre roux ou du riz complet. Alors, ils n'étaient pas forcément que comme ça. Ils avaient cette démarche de se soigner avec des médecines plus naturelles. Et puis, je pense que ce choix-là, je n'ai pas eu de choix à faire. C'était évident pour moi.
Vous me parliez aussi du transgénérationnel. En quoi est-ce que le transgénérationnel va impacter votre profession, votre manière de traiter vos patientes ?
Parce que je pense que j'ai véhiculé le temps d'en prendre conscience, les souffrances des femmes qui sont au-dessus de moi ou derrière moi, je ne sais pas comment dire, et que ça a été très douloureux pour moi de l'apprendre et d'en prendre conscience. Et ça m'a permis d'avoir une vision plus globale encore de ma vie et de celle des femmes que j'accueille ici.
Quelles sont les problématiques auxquelles doivent faire face les femmes aujourd'hui, les femmes qui viennent vous voir ?
C'est pas si facile de répondre à cette question, parce que c'est vraiment dans l'individualité de la relation et de l'histoire de chacune qu'on va trouver les réponses. Par exemple, des femmes qui ont des problèmes d'infertilité et qui se répètent, c'est toujours bien d'aller, par exemple, chercher voir un peu ce qui s'est passé dans la famille avant, ou des femmes qui ont des cancers du sein génétiques ou pas, et de mère en fille, de grand-mère en mère, etc. Ça peut sûrement aider à mieux accepter la situation et à reprendre le dessus et pour associer aux thérapeutiques lourdes du cancer que j'accepte totalement, mais associer une prise en charge différente et essayer de comprendre un peu ce qui se passe, pourquoi le corps se manifeste à un endroit ou à un autre par rapport à son histoire à soi et à ce qu'on véhicule du passé de nos ancêtres. Hein.
Donc on peut sortir de la répétition de schémas.
Oui, bien sûr, on peut en sortir. Hein. Avec des thérapies spécifiques, en pratiquant le MDR, l'hypnose, avec un grand nombre de thérapies, on peut parfois, si c'est le moment de le faire, retrouver le nœud qui est générateur de la pathologie, s'il est là. Si c'est le moment, si c'est important.
Donc peut-être pour expliquer la différence entre l'allopathie et le côté plus holistique, plus global de l'être humain, comment est-ce que vous allez traiter une patiente et comment est-ce que l'allopathie va intervenir, de quelle manière ? Qu'est-ce qui va la différencier peut-être d'un gynécologue qui est plus dans quelque chose de classique ?
Mais d'abord, une femme qui vient vers moi pour la première fois, je lui dis toujours bienvenue, c'est-à-dire je l'accueille ici et je suis là pour l'écouter. Et pour aussi la lire, puisque avant qu'elle vienne me voir, je lui envoie un questionnaire de 4 pages qui prend une bonne demi-heure à remplir. Donc c'est déjà un point de départ pour connaître plus de choses d'elle. Les médecines naturelles, elles viennent pas forcément en alternative. Pour ce qui concerne le cancer du sein, elles viennent en complément de l'allopathie. Moi, je ne peux pas me permettre de dire que ce que je donne est en alternative par rapport au traitement lourd du cancer. C'est une évidence. Mais pour d'autres situations, bien évidemment, par exemple traiter un fibrome, un syndrome prémenstruel, une mastose ou des jambes lourdes, on n'est pas obligé de soigner en allopathie. On a vraiment d'autres types de thérapeutiques qu'on va donner en alternative là.
Est-ce qu'on parle du côté émotionnel ? Est-ce qu'on s'intéresse aussi au patient dans son être intérieur, dans ses blessures intérieures et dans ses blessures émotionnelles ?
Oui, c'est la première chose à laquelle je m'intéresse. Il y a ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. Il y a ce qui se sent. Et parfois, ce qui ne se sent pas, qui va se sentir à un autre moment de la consultation ou à une autre consultation. Mais moi, j'ai une formation de sophrologue, puis une formation de psychosomatique, gynéco-psychosomatique, et une formation de psychothérapeute qui fait que il peut m'arriver de transformer certaines consultations dans des consultations de psychothérapie, parce qu'il y a des choses à accueillir à ce jour-là et que c'est le moment de les écouter. Donc pour moi, c'est avant tout, c'est ça. À tel point que quand je vais prendre ma retraite dans pas très longtemps, je vais m'installer, je pense, comme psychothérapeute à mi-temps ou à tiers-temps, mais pour moi, c'est une passion. Transmise par mes parents, bien évidemment, puisque quand ils se sont rencontrés, mon père était en analyse chez Jacques Lacan. et qui a pris ma mère aussi en traitement. Et pour moi, c'est une évidence que c'est ce qui est le plus important pour moi au départ quand je rencontre une femme ici dans mon cabinet.
Donc dès le départ, dans votre parcours professionnel, vous êtes sorti du côté purement allopathique et médical en ayant une ouverture sur finalement toute forme de...
J'ai eu la chance de m'installer avec un homéopathe acupuncteur. On dit qu'il n'y a pas de hasard, mais là, ça m'a mis le pied à l'étrier puisqu'on avait une salle d'attente commune. Au début, bien sûr, elle était remplie de ses patientes à lui, mais qui venaient pour l'homéopathie et l'acupuncture. Et c'était obligatoire que je fasse autre chose que de l'allopathie.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Alors, une question très naïve, mais que je me suis posée en venant ici. Qui c'est qui vient voir une gynécologue et pourquoi est-ce qu'on va voir un gynéco?
Parce que nous sommes d'abord des médecins de prévention. Donc prévention du cancer du sein, prévention du cancer du col de l'utérus. Nous sommes des médecins qui aident les femmes à trouver une contraception qui leur convienne, qui soit la moins toxique possible. Nous sommes des femmes qui sont là pour aider les autres femmes en cas d'infertilité et puis pour accompagner les grossesses avec beaucoup de bonheur. Et maintenant, à l'âge que j'ai, je parle comme des vieilles maintenant, à l'âge que j'ai, je vois les petits des filles que j'ai quittées dans le ventre de leur maman, et ça, c'est quand même très, très émouvant. Je viens de mettre 4 mois à écrire le chapitre contraception de mon prochain bouquin, parce que justement, j'ai voulu faire le tour de tout. Je crois qu'il faut éviter que les femmes prennent trop longtemps la pilule contraceptive, que ce n'est pas forcément une liberté qu'elles ont trouvée là, parce que ce n'est pas sans dégâts, sans effets secondaires, même si ça leur donne, lorsqu'elles sont toutes jeunes, l'impression que le monde s'ouvre à elles, parce qu'elles ont une contraception. Donc la contraception, c'est vraiment une histoire de chacune, hein, avec des diverses solutions qui partent des hormones, en passant par le stérilet au cuivre, ou des méthodes naturelles de calcul en fonction de l'ovulation, de la glaire, du toucher du col, par exemple la méthode symptothermique. Et on peut pas. J'ai mis 4 mois pour l'écrire, ça veut dire qu'on peut pas. C'est pas facile de généraliser. Et voilà, ce texte-là, il sera disponible dans un gros bouquin qui va sortir autour de la médecine intégrative chez la femme.
Mais comment est-ce qu'une jeune femme qui vient vous voir va faire le choix dans ces différents moyens de contraception? Qu'est-ce qui va l'orienter vers la pilule, le stérilet ou une méthode plus naturelle? Vous parlez du cycle d'ovulation. Comment est-ce qu'une jeune femme y voit clair dans tous ces moyens d'éviter de tomber enceinte?
On est là pour lui expliquer, hein. Il y a un livre très important qui est sorti par le professeur André Joyeux, dont tout le monde a beaucoup entendu parler, et avec lequel j'ai écrit un livre sur le cancer du sein. Il a écrit un livre sur la pilule, et plutôt contre la pilule, avec un journaliste. Vous avez une journaliste courageuse, parce que tout le monde lui est tombé dessus avant même la sortie de son livre, qui a écrit un livre sur « J'arrête la pilule ». C'est un livre qu'elle a extrêmement documenté contre la pilule, en disant qu'il ne faut pas la prendre... trop longtemps dans la vie d'une femme, et les moins dosés possibles. Et puis, il y a quand même beaucoup d'informations dans la presse grand public. Il y a des médecins qui considèrent que les femmes ne devraient plus avoir de règles, parce que les règles, disent-ils, c'est dangereux, ça donne une augmentation du cancer du sein. Je trouve que c'est un petit peu exagéré. Ce que je dis toujours, c'est que si la pilule hormonale œstroprogestative n'était pas dangereuse, on ne dirait pas à une femme qui a un cancer du sein, la première chose qu'on lui dit, c'est d'arrêter sa pilule. Donc, s'il n'y avait pas de danger, on ne lui dirait pas. De la même façon que si une jeune femme fait une embolie pulmonaire, et malheureusement, il y en a beaucoup de jeunes filles qui sont mortes d'une embolie pulmonaire liée à des troubles de la coagulation qui étaient transmis sur un plan génétique. Une femme qui fait une phlébite ou une embolie pulmonaire, la première chose qu'on lui dit, vous devez arrêter votre pilule, vous devez arrêter votre traitement de ménopause. Vous avez un cancer du sein, vous devez arrêter votre pilule contraceptive, œstroprogestative. Je crois que c'est vachement...
Quelles sont les causes? On peut s'intéresser à la maladie, donc au cancer du sein, au cancer de l'utérus. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui les causes, l'origine de la maladie?
Non, on ne connaît rien. Vous avez des femmes qui ont mangé bio toute leur vie, qui vivent à la campagne, qui sont tranquilles, et puis qui n'ont pas subi les pollutions des pesticides sur les champs, dans les vignes, par exemple. Ici, il y a beaucoup de lymphome, des tumeurs du cerveau chez des paysans, des viticulteurs qui respirent. Et puis ces gens qui vont à la campagne, en disant je suis à la campagne, mais ils sont à côté d'un champ où il y a des pesticides qui sont déversés. On le sait qu'il y a une augmentation des cancers du sein, notamment des cancers hormonodépendants, puisque tous ces pesticides et autres substances ont une activité œstrogénique. Donc via cette activité œstrogénique, on a une augmentation des cancers hormonodépendants. Donc ça peut être le testicule ou la prostate chez l'homme, et puis chez la femme, ça peut être c'est le cancer du sein plus qu'encore que le cancer de l'endomètre. C'est multifactoriel, mais il y a un moment où ça s'accumule et ça monte en flèche. Ça ne s'additionne pas, ça se bioaccumule et puis ça part en vrille. Mais il y a des choses simples à dire sur l'alimentation. Hein. Il faut, si on peut manger bio, cuisiner à la vapeur douce par exemple, éviter les fritures, et se préparer ses repas soi-même. Pas prendre de l'industriel dans lequel il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément... qu'on ne connaît pas. Il y a beaucoup de sucre, beaucoup de sec, de sel, beaucoup d'huile. Et il y a du soja dans les produits industriels qu'on achète tout près. Et dans ce soja, mais vous en avez deux tiers qui est OGM, ça, c'est pas marqué. C'est une simplification un peu basique de ce qu'il faut faire en nutrition. Pas se prendre trop la tête non plus, parce qu'on ne vit plus. Et après, il y a une grande déception en disant ben, j'ai mangé bien toute ma vie, mais on, voilà. Mais il faut aussi être bien dans son corps, bien dans son esprit, et à l'abri de toute la pollution extérieure. Et personne, à ce jour, à part les centenaires sur l'île d'Okinawa, n'a pu montrer que c'était pas... Comme c'est multifactoriel, ben on ne peut pas tout énumérer, tout aller examiner.
Mais les gens, ou peut-être mouraient plus jeunes, mais il y a toujours eu des cancers, il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, est-ce que cette maladie existait déjà ?
Ah, je vous remercie de cette question à laquelle je ne sais pas répondre. Je pense que oui, bien sûr.
Vous avez écrit plusieurs bouquins, parlez-moi un petit peu de vos ouvrages.
Alors j'ai commencé par un ouvrage sur la ménopause il y a très longtemps, sur les traitements naturels de la ménopause, parce que ça fait partie des premiers écrits que j'ai eus dans Vous et votre santé, qui est un journal un peu rebelle. Et ce qui fait que le premier livre que j'ai écrit, c'était un petit livret sur la ménopause et les traitements naturels. Après, j'ai écrit un livre sur les tisanes, quand j'étais au début de Phyto, parce que je ne prescrivais jamais de tisane. Et j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir une consultation de phytothérapie à l'hôpital, en gynécologie, dans un service de gynéco. Et j'ai appris que dans mon dos, on se moquait de moi en m'appelant Madame Tisane. J'ai dit, bon alors, on m'appelle Madame Tisane, je vais faire un livre sur les tisanes, comme ça je vais m'y connaître un peu plus. J'ai fait un joli livre avec une journaliste aux éditions Rustica. Voilà, après j'ai managé un énorme bouquin chez Reader's Digest avec 150 plantes et 200 pathologies. Et nous avons été avec tous les enseignants que j'avais dans le cadre du DU. On a tous collaboré à ce gros ouvrage qui a été traduit dans plein de langues et puis qui a eu 5 ou 6 éditions et qui se trouve encore... avec des titres à chaque fois un peu différents. J'ai écrit un livre sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas en phytothérapie, c'est-à-dire sur les nouveautés, sur les nouveaux concepts de réflexion autour de la santé avec le professeur Michel Paris, qui était pharmacognoste, donc un spécialiste de la chimie des plantes. Après, j'ai écrit donc comment enrayer l'épidémie des cancers du sein et des métastases avec Henri Joyeux, ce qui m'a permis de faire un bond un peu en avant dans l'écriture. Et vraiment, c'était une grande chance de rencontrer Henri. À la suite de ça, j'ai écrit un livre sur le syndrome prémenstruel et les traitements naturels chez Thierry Soucard. Avant, j'avais écrit un livre sur le cancer du sein avec une journaliste aux éditions Erol. On a fait une deuxième édition qui est toujours là, qui s'appelle Anti-cancer du sein. Parce qu'entre-temps, grâce à la fondatrice de Feminavio.com, c'est ça, j'avais rencontré David Schreiber, et on avait passé un moment assez unique, puisque nous avons fait un interview réciproque, c'est-à-dire je l'ai interrogé, il a répondu, et le contraire, dans son appartement à Neuilly, je crois. Et c'était là aussi, ça, le fait que ces vidéos soient diffusées sur YouTube, ça a permis de faire passer une partie des messages que je voulais faire passer. Mmh.
J'aimerais qu'on revienne sur votre parcours professionnel et que vous me preniez une histoire dont vous êtes fière, une femme, une patiente que vous avez accompagnée.
Disons, peut-être une des plus grandes joies, c'est d'avoir des femmes qui sont cassées par le syndrome prémenstruel. C'est-à-dire qu'elles vivent vraiment de façon très éprouvante, avec des envies de suicide, avec des violences en elles terribles. Et, et qui n'ont pas trouvé de solution dans l'allopathie, et que le fait qu'elles puissent me dire que leur vie redevient normale, ça c'est déjà un très grand bonheur pour moi, de savoir qu'avec quelques plantes, un peu d'homéopathie, du magnésium, les bons mots, parce que aussi le médecin est aussi un médicament, hein. La vie redevient normale pour elle. Voilà, ça c'est un grand plaisir. Puis après, il y a tous ces bébés qui viennent et qui avaient beaucoup de mal à arriver et pour lesquels j'ai eu des pistes de réflexion différentes autour de l'ostéopathie gynéco, du dosage de l'iode dans les urines de 24 heures, des raisons comme ça qui ne sont pas connues des... J'ai quelques petits secrets comme ça qui ne sont pas connus des gynéco-classiques qui s'occupent de stérilité. Ça aussi, c'est beaucoup de reconnaissance de la part des femmes, des enfants qui... Miracle. Mais est-ce qu'ils ne seraient pas venus tout seuls sans moi? Peut-être aussi. Hein, donc, nous partageons, elles et moi, des grandes joies avec des embrassades, avec des pleurs. Et puis aussi des femmes complètement désespérées par des récidives de cancer du sein qui on leur a balancé comme ça dans la figure et essayer de rattraper ce qui a été dit, ce qui a été fait pour leur redonner confiance, leur redonner des outils pour se battre et activer leur force d'auto-guérison. Même que dans la tête, déjà, ça c'est bien de ne pas s'avouer vaincu et de pouvoir repartir. Ça, c'est des grands moments d'émotion.
Qu'est-ce que c'est une maladie? Quelle est votre définition de la maladie?
C'est la perte d'une harmonie en soi, dans sa tête, dans son corps, dans son esprit. Voilà, j'ai pas envie de dire autre chose.
Donc si c'est une perte d'harmonie, ça veut dire qu'à titre préventif, si on trouve ou si on garde un équilibre...
Oui. C'est pour ça que la pratique de toutes ces techniques ancestrales de méditation, de respiration, de yoga, du zen, de la sophro, c'est essentiel à l'être humain. C'est à mon avis la recherche de la neutralité en soi... Et ce point d'harmonie, on peut le trouver par ce type de pratique.
Donc élargir vraiment sa vision sur toutes les thérapies et toutes les médecines qui existent autour de nous.
Alors, en ayant une vision la plus objective possible à travers l'histoire de chaque thérapeute, hein, tout n'est pas valable, a priori. Voilà, il faut savoir avoir son libre arbitre aussi, aussi bien en tant que médecin qu'en tant que patiente.
Et donc vous, les thérapies que vous conseillez, vous parliez de méditation, vous parliez de respiration, quelles sont pour vous les clés, les outils intéressants dans tout ce panel d'alternatives qu'on retrouve autour de nous pour garder cette harmonie?
C'est spécifique de chacune. Hein. Si j'envoie quelqu'un faire du yoga, ça peut ne pas convenir. Je l'envoie faire de la sophro, ça va aller. De l'hypnose pour une autre, des séances de MDR... Et parfois, tout simplement, elles sont là devant moi et je leur dis « Attendez deux secondes, respirez s'il vous plaît. » Elles sont là, elles n'ont plus de souffle. Elles sont complètement coincées au niveau de la gorge. Et alors, voilà, je leur dis « Maintenant, fermez les yeux, vous respirez, et ça va déjà aller mieux. » Parce que l'oxygène, c'est la vie. Donc, il faut déjà pouvoir propager cet oxygène dans tout notre corps. Et le faire de façon consciente, je pense que c'est encore mieux pour nos cellules.
Je vous ai demandé ce que c'était que la maladie, votre vision de la maladie. Donc, vous parliez de perte d'harmonie. J'ai envie de vous demander qu'est-ce que c'est qu'un être humain.
Ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est de dire un être humain, c'est quelqu'un qui est là, qui a une mission. Et tout le monde ne rencontre pas sa mission. Donc, je suis très à l'écoute de ça aussi. À quoi sert notre vie, ici, maintenant, autour des autres et avec les autres? Moi, je pense que je suis sur ma mission. Ce n'est pas du tout de l'ésotérisme de vous dire ça, mais c'est de me dire je fais ce que j'avais à faire et ce que j'ai à faire, je le fais le mieux possible. Et je fais des progrès comme tout le monde et j'apprends tous les jours et je me trompe parfois et j'aime pas me tromper parce que je ne pourrais pas atteindre la perfection. Je voudrais faire le mieux possible.
Très intéressant cette notion de mission ou de sens, hein, trouver un sens à sa vie, quel est le sens que je donne aux actes que je pose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en quête de leur mission, en quête de sens. Peut-être pour trouver cette harmonie, cet équilibre intérieur, comment est-ce qu'on pourrait faire?
Apprendre à respirer, retrouver son souffle, savoir que si on ferme les yeux et qu'on est bien connecté avec soi, on a la réponse, généralement, aux questions qu'on se pose. Il m'arrive de dire à mes patientes, allez, fermez les yeux, respirez, mettez-vous sur un point neutre, je leur explique une petite technique. Je leur dis, il est midi moins 5, vous fermez les yeux, il est moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1. Il est midi, vous restez sur midi. Je dis, vous êtes là, vous restez sur midi, vous respirez, vous posez la question et vous avez la réponse. Parce que la réponse, elle est en vous. Et c'est pas moi qui la lui donne.
Merci, Bérangère.
La voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.